On va lire un passage dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Le passage va s'afficher normalement sur l'écran. Un passage qui nous montre la manifestation spectaculaire de la gloire de Dieu à l'occasion de la dédicace du temple de Salomon. Donc, quand le temple a été terminé, il y a eu la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce que nous allons rappeler, donc à travers la lecture de ces quelques versets, pour ensuite poursuivre notre méditation sur ce thème de la gloire de Dieu. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consomma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire de l'Éternel remplit la maison. C'est fini ? Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé et se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La présence glorieuse ou la manifestation glorieuse de la présence de Dieu provoque une inclinaison de la part du peuple qui se prosterne face contre terre. Qu'est-ce que la gloire ? C'est quoi la gloire ? Alors, il y a une définition qui propose ceci. Célébrité éclatante, dû à des qualités ou des actions estimées d'un large public. Ainsi, on peut parler de la gloire de certains acteurs cinématographiques, acteurs de cinéma, ou de la gloire, on peut parler de la gloire de certains chanteurs, ou encore on peut parler de la gloire militaire, de ces conquérants comme Alexandre le Grand, par exemple, donc qui ont été des personnes glorieuses, pleines de gloire. Et comme synonyme, nous avons célébrité, grande renommée, grandeur, splendeur. En marge de la gloire des hommes, qui est passagère, qui est éphémère, c'est ce que nous rappelle l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 1er, versets 24 et 25, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. La gloire humaine, la gloire du monde reste éphémère. Et contrairement à cette gloire humaine, à cette gloire du monde, à cette gloire terrestre, il y a la gloire de Dieu, qui n'a rien à voir avec les paillettes ou avec les projecteurs, et qui, elle, demeure éternellement. Et c'est ce que le psalmiste souligne au chapitre 104 et au verset 31. La gloire de Dieu subsiste à jamais. Rien à voir avec la gloire des humains, rien à voir avec la gloire des hommes. L'expression « la gloire de Dieu » désigne en fait Dieu lui-même dans sa majesté, son éclat, sa puissance, sa grandeur, sa sainteté, qui se manifeste soit tantôt par ses exploits, ou soit par des apparitions. Certains épisodes bibliques mettent d'ailleurs en scène les apparitions glorieuses de Dieu. C'est le cas notamment lorsque Dieu se manifeste, comme nous l'avons lu, à travers le feu, à l'occasion de la dédicace du temple de Salomon, ou encore à travers le buisson, l'épisode du buisson ardent. Le feu, Dieu se manifeste, Dieu manifeste sa gloire à travers le feu. Ou encore Dieu se manifeste à travers le feu sur le mont Sinaï lorsqu'il transmet à Moïse les tables de la loi. Dieu manifeste sa gloire à travers le feu, mais aussi parfois à travers la nuée. Cette nuée qui couvre le tabernacle, qui couvre la tente d'assignation, et puis qui couvrira aussi le lieu très saint du temple, cette Shekinah, cette nuée, qui est aussi en elle-même la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu, on voit ça dans Nombre chapitre 16, verset 42, entre autres, et Exode 40, versets 34 et 35. Dieu manifeste aussi sa gloire à travers certains exploits, comme nous le mentionnons il y a un instant. Par exemple, lorsqu'il fit sortir son peuple hors d'Égypte, son peuple qui était depuis 400 ans esclave sous le joug des Égyptiens. Et Dieu donc a manifesté sa gloire en libérant son peuple. Et c'est ce que le livre de l'Exode nous relate au chapitre 15, verset 1. Il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ou encore, Dieu a manifesté, on peut encore citer cet exemple, sa gloire souveraine, sa gloire éclatante, lorsque le peuple d'Israël s'est emparé de la terre promise du pays de Canaan, qui était entouré de murailles imprenables, hautes, épaisses. Et pour bien montrer que la part de l'homme était nulle dans la conquête de la ville de Jéricho, Dieu a permis que le peuple s'approprie la ville au son des cors, au son des trompettes et par les cris de victoire. Dieu a manifesté sa gloire à de multiples reprises à travers ses exploits. Et puis la gloire de Dieu, elle se manifeste aussi à travers son œuvre créatrice. Qu'est-ce que c'est beau, hein, quand on considère, quand on observe, quand on admire ces chaînes de montagnes, ou bien ces océans, ces paysages marins, ces mers, lorsque l'on considère l'espèce animale ou les espèces végétales dans leur diversité, qu'est-ce que c'est beau. Dieu manifeste sa gloire à travers la création. Et puis, Dieu a aussi créé la voûte céleste, les astres, les planètes, les étoiles, le firmament. Et le psalmiste, au chapitre 19, verset 2, vous savez bien, il dit ceci, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Oui, les cieux, le cosmos, raconte la gloire de Dieu. La création est là pour montrer la gloire de notre grand Dieu créateur. Enfin, il y a bien sûr le joyau que nous sommes, la création de l'être humain. Vous et moi, dans notre complexité, nous sommes aussi le résultat visible et tangible de la gloire de Dieu, finalement. Dieu, je te loue, dira le psalmiste, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Irénée de Lyon, un père de l'Église qui a vécu au IIe siècle, celui-là, écrit ceci, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et on est d'accord, évidemment, avec cette assertion. Hein ? Lorsque nous considérons la complexité organique, physique, l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, le système nerveux, et puis le système nerveux, l'appareil circulatoire, le système digestif, l'appareil digestif et quoi encore là ? Enfin bref, il y a dans tous ces organes une complexité, une interdépendance et une complémentarité qui manifeste la gloire de notre savant Créateur. Dieu manifeste sa gloire à travers la création de l'être humain. Et puis d'autre part, l'homme vivant, envisagé par le père de l'Église Irénée, dont on vient de mentionner la citation, l'homme vivant, envisagé par Irénée, est aussi un homme régénéré, un homme né de nouveau, et là aussi toute la gloire revient à notre grand Dieu rédempteur. L'homme, donc la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que dire en outre de la beauté des sentiments ou encore de la beauté des émotions? Dans le Nouveau Testament, alors la gloire de Dieu, elle s'incarne, comme nous l'avons rappelé en introduction, à travers la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'incarne dans son Fils. Jésus a glorifié le Père sur la terre. Et souvenons-nous des versets que nous avons lus en tout début de culte, Jean 1, verset 14, « La parole a été faite chair et elle était pleine de grâce et de gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus, en Jésus-Christ, se concentre donc toute la gloire de la divinité. Et puis le deuxième verset que nous avons lu, hein, il est quoi encore ? C'était, il est l'expression de la gloire de Dieu. C'était ça ? L'expression de la gloire de Dieu et l'empreinte de son être, l'empreinte de sa personne. Jésus, quand il est venu sur la terre, par sa vie, par son œuvre, par ses miracles, par sa sainteté, par son amour, par sa compassion, par tout ce qu'il a manifesté à travers son être, a démontré la présence glorieuse de Dieu à travers sa personne. Il est le reflet de sa gloire. Pas l'expression, il est le reflet de sa gloire. Donc, on peut citer aussi comme miracle que Jésus a accompli pour manifester la gloire de Dieu, ben les noces de Cana. Qu'est-il dit ? Dans le passage en Jean chapitre 2, verset 11, concernant les noces de Cana, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, à travers ces miracles, eh bien, Dieu a manifesté la gloire de Dieu. Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Et puis, on peut mentionner aussi la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare a été pour Jésus aussi l'occasion de manifester la gloire de Dieu. Une résurrection. Et puis on peut mentionner aussi comme autre miracle, parmi tant d'autres, la guérison de l'aveugle de naissance qui est allé se laver au réservoir de Siloé. Souvenons-nous, quand les pharisiens ont posé la question à Jésus, « Mais qui a péché pour que cet homme soit né aveugle ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents ?» Et Jésus, qu'a-t-il répondu ? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée à travers lui. Jésus, par les miracles qu'il a accomplis, les nombreux, les multiples miracles qu'il a accomplis, qu'il a réalisés, a manifesté sur la terre la gloire de Dieu. Et en attendant le retour de Jésus en gloire, comment désormais, depuis l'ascension, la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? Oui, j'ai entendu là-bas quelqu'un qui soufflait. Comment, depuis l'ère de l'Église, la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? Eh bien, tu as raison, hein, Eric. À travers chacun d'entre nous, à travers la vie du chrétien, à travers vous et moi, la gloire de Dieu est censée se manifester. Corinthiens chapitre 3, verset 16, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous dit que nous sommes devenus le temple de Dieu. Et littéralement, nous sommes devenus le naos de Dieu. C'est-à-dire, pas les parvis, pas même le lieu saint, mais nous sommes devenus le lieu très saint de Dieu. Le lieu où la gloire de Dieu résidait dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Et c'est ce que nous sommes devenus lorsque nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus le temple de Dieu, le naos, le lieu très saint de Dieu, le lieu où réside la gloire de Dieu. Dieu veut faire transparaître sa gloire à travers chacune de nos vies. Irénée, donc, que l'on citait tout à l'heure, écrit encore ceci, « Il, donc l'homme, est le réceptacle de l'opération de Dieu et de toute sa sagesse et de toute sa puissance. » L'homme est le réceptacle de l'opération de Dieu et de toute sa sagesse et de toute sa puissance. Voilà comment il définit la gloire de Dieu dans l'homme. Il est, je suis, vous êtes, le réceptacle de la gloire de Dieu. Nous sommes les réceptacles de la gloire de Dieu. Et de la même façon, un autre père de l'Église, Grégoire de Nice, qui lui vécut au IVe siècle, écrit « Ce qui glorifie Dieu, c'est de faire des participants de sa gloire. » Ce qui glorifie Dieu, c'est de faire des participants de sa gloire. Dieu donc souhaite que chacun d'entre nous, chrétiens, chrétiennes, nous puissions rayonner à travers nos vies la gloire de Dieu. Alors, nous sommes donc censés être ces réceptacles de la gloire de Dieu. Ben, c'est à la fois une grande grâce, mais aussi une grande responsabilité. C'est comme si nous étions en quelque sorte un trésor ouvert dans lequel se trouvent des pièces d'or, par exemple, ou des diamants étincelants. Voilà ce que nous sommes. Ou bien c'est comme si nous étions une corbeille remplie de fruits, de beaux fruits, de fruits splendides. C'est joli une corbeille de fruits, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu ce que Jésus va présenter dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, lorsqu'il dit, on parle de fruits, la gloire de mon Père, la gloire de Dieu, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, dira-t-il un peu plus loin. Alors, quel fruit est-ce que je peux porter pour glorifier Dieu? Bien sûr, il y a le fruit de l'Esprit. Je suis le réceptacle de la gloire de Dieu lorsque le Saint-Esprit produit en moi le fruit de l'Esprit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, maîtrise de soi. Et je suis le réceptacle de Dieu lorsque je produis à travers moi, lorsque le Saint-Esprit produit à travers moi ce fruit de l'Esprit. Mais il n'y a pas que le fruit de l'Esprit que nous sommes appelés à porter, à produire. Je suis aussi un réceptacle de la gloire de Dieu quand, plutôt que de faire ostentation de mes compétences, je fais preuve d'humilité. L'humilité est un fruit. Jésus, tout au long de sa vie, ce qui a caractérisé son ministère, son œuvre, sa vie en elle-même, c'était l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, sentiments d'humilité. L'humilité est un fruit, et c'est ce que nous rapporte le Proverbe, chapitre 22, verset 4, qui nous dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Le fruit de l'humilité, C'est la gloire. Est-ce que je produis, est-ce que je fais preuve d'humilité? En faisant preuve d'humilité, je suis le réceptacle de la gloire de Dieu. Alors, un autre fruit, je suis le réceptacle de la gloire du Seigneur quand je produis des fruits qui sont dignes de la repentance. C'est Jean-Baptiste qui dit ça, hein, quand il annonce le royaume, la venue du royaume de Dieu. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Une repentance réelle produira des résultats réels. Et ces résultats sont aussi appelés des fruits qui se traduisent par un dynamisme de changement moral. Est-ce que je porte des fruits dignes de la repentance? Suis-je par là un réceptacle de la gloire de Dieu? Un autre fruit que nous sommes appelés à produire, eh bien, ce sont les bonnes œuvres. Oui, on a tendance à se gargariser de la grâce et à s'asseoir dans son petit fauteuil évangélique, hein. Mais les œuvres, elles sont là. Dieu les a préparées d'avance pour nous, nous dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 2, verset 8-9, afin que nous les pratiquions, les bonnes œuvres, les bonnes actions. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, Jérémie 17, verset 9, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon le fruit de leur œuvre. Selon le fruit de leurs œuvres. De leur œuvre. La pratique de bonnes œuvres constitue un fruit aussi qui est à la gloire de Dieu. Les bonnes actions, les bonnes œuvres pratiquées autour de moi. Alors, être le réceptacle de la gloire de Dieu, c'est aussi avoir comme fruit la sainteté. La sainteté, dans nos vies, c'est aussi un fruit. Quand je marche dans la sainteté, je suis un réceptacle de la gloire de Dieu. Une vie qui est caractérisée par la sainteté est un fruit à la gloire de Dieu. Dans Romains 6, verset 22, Paul écrit ceci. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté est un fruit. Si je marche dans la sainteté, je suis un réceptacle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu rayonne à travers ma vie, se manifeste à travers moi. Et enfin, être un réceptacle de la gloire de Dieu, c'est aussi évangéliser. C'est aussi un fruit. Gagner les âmes. Proverbe 11, verset 30, nous dit « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne les âmes est sage. » Le salut des âmes est aussi un fruit porté au compte de la gloire de Dieu. Je suis un réceptacle de la gloire de Dieu lorsque j'annonce la bonne nouvelle, le message libérateur pour l'être humain. Pour conclure, donc, la gloire de Dieu, c'est que je porte beaucoup de fruits, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Pour conclure, bien oui, sous l'ancienne alliance, la gloire de Dieu se manifestait à travers le feu, à travers la nuée, à travers ce qu'on appelle la Shekinah, à travers les exploits libérateurs, entre autres, de Dieu en faveur de son peuple. Sous la nouvelle alliance, la gloire de Dieu s'est concentrée à travers la personne et l'être de Jésus-Christ. Et depuis l'ère de l'Église, la gloire de Dieu est censée se manifester à travers chacun des chrétiens, à travers la vie des chrétiens. Dieu veut, souhaite que sa gloire rayonne dans chacune de nos vies. Quels fruits portons-nous pour la gloire de Dieu? Quels fruits portons-nous pour la gloire de Dieu? L'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, l'humilité, les fruits dignes de la repentance, la sainteté, le témoignage qui conduit à la nouvelle naissance parmi nos interlocuteurs. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, dit Jésus. Alors la communion et la contemplation, et c'est là toute la difficulté pour le croyant, c'est pas facile de porter du fruit. On est tellement pris par moult activités dans le tourbillon de la vie. Mais le secret se trouve dans la communion et dans la contemplation de la personne de Dieu dans son sanctuaire. Et seule la contemplation de Dieu, la méditation, la relation qu'on peut établir avec lui, peut nous aider à laisser rayonner, à laisser transparaître à travers nos vies sa gloire divine. Citons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 pour terminer. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est dans la mesure où nous contemplons la gloire de Dieu que cette même gloire pourra rayonner à travers chacune de nos vies. Souvenons-nous de Moïse, hein, quand il était parti dans la tente d'assignation, ou bien pendant les 40 jours quand il est parti pour recevoir les tables de la loi. Il était dans la présence de Dieu et quand il redescendait, son visage était transfiguré. Et son visage rayonnait la gloire de Dieu. Tant et si bien qu'il devait se couvrir le visage parce que c'était trop, l'impact était trop fort pour l'être humain que de voir à travers Moïse la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons ce grand privilège de pouvoir contempler la gloire de Dieu, le visage découvert, afin de pouvoir être transformé de gloire en gloire, et à notre tour, laisser transparaître, laisser jaillir, laisser rayonner à travers nos vies la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide vraiment à cultiver cette relation que nous pouvons avoir avec lui, et qui seul peut nous aider, effectivement, à laisser transparaître la gloire dans chacune de nos vies.